au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, page feuilletée, l'agenda littéraire de Canal Academy. Dans une précédente émission consacrée à Jean-Pierre Changeux, nous avons esquissé les bases de sa théorie. La pensée est un enchaînement d'objets mentaux. Chaque objet mental correspond à un état physico-chimique d'un graphe de neurones. Les neurones sont reliés entre eux par des synapses, un tissu dont la configuration ne dépend pas uniquement des gènes. Au cours des 15 premières années, les connexions neuronales sont mises en place par adaptation à l'environnement socio-culturel. Le développement du cerveau est ainsi modelé par l'éducation, les apprentissages, les mimétismes. Pour le dire avec les mots de la neurobiologie, le cerveau traverse une phase d'épigénèse dont il gardera la trace. Elle met à profit la plasticité neuronale pour sélectionner les synapses jusqu'à leur stabilisation. Ce schéma place la distinction entre l'inné et l'acquis dans une nouvelle perspective. Chaque individu est le résultat d'une double sélection à travers un double héritage. Héritage de l'espèce, fruit d'une longue évolution selon la sélection naturelle décrite par Darwin. Héritage d'un milieu culturel par sélection épigénétique des synapses au cours des jeunes années. L'une et l'autre sélection, épigénétique et génétique, autorisant une grande variété de modulations individuelles. La position de Changeux est que le neuronal suffit à contenir tout le psychique sans qu'il soit besoin d'en appeler à une dimension spirituelle. Pourquoi parler d'esprit, demande-t-il. Tel est son credo moniste et naturaliste. Il prône l'abandon de toute référence à une harmonie préétablie vers laquelle nous devrions tendre par la voie de quelque ascétisme salutaire. Le beau, nous dit-il, serait ainsi véhiculé sous la forme de synthèse singulière et harmonieuse entre émotion et raison qui renforcerait le lien social. Le bien consisterait en la poursuite d'une vie heureuse de chacun avec les autres dans la société. Enfin, le vrai serait la recherche incessante de vérités objectives, rationnelles, universelles et cumulatives, avec constante remise en question critique et progrès des connaissances ainsi engendrées. Ses travaux, ses publications d'envergure et ses décennies d'enseignement au Collège de France ont placé Jean-Pierre Changeux en chef de file de la neurobiologie. Son approche a toutefois suscité de vives résistances au plan philosophique. Elle a fait ressurgir l'éternelle contestation entre monisme et dualisme, entre naturalisme et spiritualisme. Et cela de façon d'autant plus aiguë et plus inévitable que Jean-Pierre Changeux, non sans quelques provocations, a porté le fer de sa théorie jusque dans les domaines réservés de la métaphysique. La contestation sans doute la plus marquante est venue de l'éminent philosophe Paul Ricoeur. Le débat entre les deux hommes a fait l'objet d'une publication parue en 1998 aux éditions Odile Jacob. Son titre, « Ce qui nous fait penser, la nature et la règle ». Une joute à haut niveau, courtoise mais sans complaisance idéologique. À la base de cette controverse, l'articulation entre le neuronal et le psychique. Alors que Jean-Pierre Changeux les place sur un même plan, Paul Ricoeur voit une obligation philosophique à les distinguer. Ce désaccord illustre bien l'antagonisme difficilement réductible entre le monisme de l'un et le dualisme de l'autre. À la question très directe « Le cerveau pense-t-il ?», Paul Ricoeur répond très clairement « Mon cerveau ne pense pas, mais tandis que je pense, il se passe toujours quelque chose dans mon cerveau, même quand je pense à Dieu. » Changeux, quant à lui, entend constater une rupture avec la tradition qui sépare le psychique du neurologique. Il ne sous-estime pas la difficulté de les mettre en correspondance, mais n'éprouve pas le besoin de les distinguer quant à leur nature. Il estime que les progrès spectaculaires de nos connaissances sur le cerveau et la récente émergence des sciences cognitives invitent pour le moins à réexaminer cette distinction. Les deux auteurs seraient prêts à s'accorder sur l'idée que le cerveau est le substrat de la pensée, mais Ricoeur se refuse à confondre les deux plans. Selon lui, la notion de neuronal est elle-même une construction du psychique. Le neuronal sous-tend la conscience, mais n'est pas la conscience. Toute la question est de savoir comment les deux plans s'articulent. Il est toujours difficile pour une pensée dualiste de définir le résidu qui, selon elle, échappe au réductionnisme scientifique lorsqu'il ramène un niveau de connaissance à des mécanismes de niveau inférieur, lorsque, par exemple, il ramène la vie, le biologique, à des processus physico-chimiques, ou bien lorsque la neurobiologie limite la pensée aux seuls mécanismes cérébraux qui l'accompagnent. À la page 92 de l'ouvrage, Paul Ricoeur veut rendre Jean-Pierre Changeux sensible à la spécificité du psychisme. Au détour d'une phrase où le scientifique évoque sa libre joie liée au plaisir esthétique, le philosophe abandonne le ton du dogmatisme philosophique. Il invite l'homme de science à reconnaître que la nature de ce vécu est d'un autre registre que celui de la modélisation-réfutation. Il crée un climat favorable en donnant des gages de conciliation à son contradicteur. Il manifeste son intérêt pour la notion d'épigénèse, car, dit-il, elle ouvre une carrière à l'histoire individuelle du développement. Il affirme enfin n'avoir aucune réticence quant au principe d'une modélisation, ni aucune réserve quant à l'intérêt de pousser le plus loin possible cette marche vers l'inconnu, comme il la nomme. Il doute seulement qu'elle puisse éclairer le rapport entre le support neuronal et l'expérience humaine. Sans doute soucieux de conserver au dialogue ce caractère apaisé, l'homme de science engage alors le philosophe à ne pas précipiter les conclusions avant d'avoir examiné la complexité du cerveau telle que l'appréhende la nouvelle neurobiologie. Jean-Pierre Changeux compte beaucoup sur cet argument de la complexité. C'est pour lui, sinon le fait nouveau, du moins la prise de conscience récente qui devrait encourager les dualistes à réviser leur position. Imaginez un peu, 100 milliards de neurones reliés entre eux par, en moyenne, 10 000 contacts synaptiques, ce qui crée un nombre de combinaisons plus élevé que le nombre de particules chargées positivement dans l'univers, et qui va bien au-delà si la plasticité de ces liaisons est prise en compte. La valeur infinie n'existe pas en mathématiques, mais c'est par ce mode de raisonnement que la notion d'infini se laisse approcher, en majorant un nombre arbitrairement grand. Paul Ricoeur est-il convaincu? Admet-il que cette immensité, cette explosion combinatoire, offre assez de place pour englober le psychisme? Non. Pour accompagner, sans doute, pas pour confondre. Pousserait-on cette complexité beaucoup plus loin qu'on ne peut l'imaginer, nous en resterons toujours à ce qu'il désigne comme l'envers de l'endroit, signifiant par là que la plus étroite corrélation n'impliquera jamais une identité de nature. La différence de registre demeure. La confrontation rebondit lorsque le débat en vient au fondement naturel de l'éthique. Pour Paul Ricoeur, fondement est un mot ambigu. Il peut désigner le soubassement, donc le préalable, ou bien la légitimation, la justification. Sa revendication en appelle à une ouverture d'esprit. Respectons le pluralisme des sociétés évoluées qui, selon différentes visions du monde, accueillent plusieurs justifications du bien. Jean-Pierre Changeux ne partage pas ce souci de justification. Il redoute que de proche en proche, elle n'ouvre la porte aux justices divines et au fondamentalisme. La religion est mise en cause. Comment convient-il d'en parler? Jean-Pierre Changeux lui conteste le statut de conviction. Une conviction se pèse, s'amende, évolue en particulier au cours d'un débat argumenté, ouvert et éclairé. Alors que selon lui, une convention sociale religieuse, telle qu'elle est écrite dans les textes liturgiques, est une signature culturelle garante de l'identité communautaire, mais elle n'offre d'autres souplesses que les amendements de la casuistique. Elle relève de l'opinion plus que de la conviction. Jean-Pierre Changeux plaide pour une intercompréhension bienveillante et éclairée où toutes les opinions s'expriment mais restent libres d'évoluer. Paul Ricoeur s'en tient au terme de conviction, la conviction n'étant rien d'autre pour lui que l'acquiescement de l'esprit à ce qu'il tient pour vrai, bon ou juste. Pas de consensus de façade, donc. Il ne suffit pas de s'en tenir à une proximité formelle des analyses, encore faut-il qu'elles s'appuient sur des notions de même contenu. Très attentif à cette exigence, Paul Ricoeur se méfie des mots qui, selon lui, voyagent entre les deux discours. Comme le souligne Denis Muller en commentant ce dialogue, il se peut que le même mot issu des neurosciences donne lieu à une reprise philosophique diamétralement opposée. Trêve de détour sémantique, la question religieuse va être abordée de front par Jean-Pierre Changeux. Il a lui-même été croyant autrefois. C'est la traversée du monde scientifique, les dialogues quotidiens avec Jacques Monod et ses réflexions personnelles qui l'ont, dit-il, définitivement éloigné de la religion. Il se déclare préoccupé par les rigueurs vaticanes face à la contraception et à la fécondation assistée. Il évoque la peine de mort, tolérée par le catéchisme romain, dit-il, et de rappeler en bloc les croisades, la Saint-Barthélemy, la Shoah. Les repentances elles-mêmes ne sont-elles pas des aveux de complicité? Dans son argumentaire et dans le choix de certaines cibles, Jean-Pierre Changeux n'ignore pas qu'il s'adresse à un chrétien protestant qui devrait être enclin à le suivre. « Amour universel, que de crimes commis en ton nom » clame-t-il en substance. Il admet que la philosophie des Lumières a pu s'enraciner dans la tradition chrétienne. Mais de quelle avancée n'a-t-elle pas marqué un changement radical dont il faut bien créditer la fraternité universelle? L'attaque de Jean-Pierre Changeux ne manque pas de poids. Alors, amour universel ou fraternité universelle? Reste à savoir si nous ne sommes pas dans un affrontement de vœux pieux. La mobilisation de l'histoire peut toujours alimenter les réquisitoires. Mais les bonnes intentions, de quelque bord qu'elles viennent, en finissent-elles jamais de paver l'enfer, celui de l'intolérance et de la violence des hommes? Paul Ricoeur dénonce les amalgames, objecte le contre-exemple de la terreur dès le lendemain du nouvel idéal proclamé. Il est facile pour les uns d'exploiter un héritage religieux pour en faire un discours de justification idéologique. Facile pour les autres de dénoncer le mal de la violence. Plus difficile est de trouver la voie du bien. Au nom d'une vraie tolérance, Paul Ricoeur invite à une meilleure prise en compte de la diversité culturelle. Pour le philosophe chrétien, c'est entre amour et justice que tout se joue. L'amour n'est pas un substitut de la justice, il en est l'exigence. Il demande à la justice d'être toujours plus juste, à l'universalité de respecter la singularité. Paul Ricoeur ne partage pas avec Jean-Pierre Changeux le même souci d'universel. Il est plus critique face à un héritage de la philosophie des Lumières qui inspira la Déclaration des droits de l'homme sans examen de la diversité. Ayant pris la mesure des particularismes, y compris au sein des religions, Ricoeur préfère privilégier le droit à la différence. Il se tient aussi à distance d'un universalisme religieux qui, selon ses termes, aurait la prétention de nommer le fondamental au bénéfice du monde entier. une attitude cohérente avec son appartenance au protestantisme. Paul Ricoeur ne rejoint l'universalisme que dans l'espoir d'une paix généralisée des religions. « Je la vois, dit-il, comme une reconnaissance mutuelle entre le meilleur du christianisme et du judaïsme, le meilleur de l'islam et le meilleur du bouddhisme. Chaque religion renoncerait à dire qu'elle a la vérité, espérant seulement être dans la vérité. » Il en va pour lui de la pluralité des religions comme de la pluralité des langues. Le transfert de l'une à l'autre s'apparente à la traduction, avec sa marge assumée d'incertitude. Il accepte de rester dans la fragmentation, dans la multiplicité des discours, dans la multiplicité des religions. Jean-Pierre Changeux propose alors un œcuménisme laïque, non limité aux religions, étendu à tous ceux qui, très nombreux, n'ont pas de religion. Ainsi, les deux auteurs, n'ayant cessé tout au long du dialogue de parler des langues différentes, vont-ils au moins se rapprocher sur un principe de tolérance qui accepte la pluralité, donne droit à la différence. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel agenda littéraire sur l'antenne de Canal Académie.